Vous écoutez Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
À l'heure actuelle, il n'y a pas lieu de fermer les frontières entre nos pays. Ce serait disproportionné et inefficace.
De frontières. Donc, malgré la multiplication de cas de coronavirus en Italie, où trois nouvelles régions sont touchées, en France, un homme et une femme sont hospitalisés en Auvergne-Rhône-Alpes et à Paris, mais leurs jours ne sont pas en danger. Et des élèves vont devoir rester confinés chez eux, pas d'école, car ils rentrent d'une région à risque. Le match Lyon-Turin demain en Ligue des Champions est maintenu. Le maire de Mézieux, où se trouve le stade, s'inquiète de la présence de près de 3000 supporters italiens.
Cette décision est irresponsable. Laisser venir 3000 supporters n'est pas raisonnable.
Dossier complet sur ce coronavirus dès le début de ce journal. Utiliser le 49.3 pour passer en force sur la réforme des retraites, ça se précise. Édouard Philippe ne l'exclut pas et même il l'envisage.
Lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, je le fais sans hésiter. Et j'utilise rien que la Constitution, mais bien toute la Constitution.
Dans ce journal, on reviendra également sur les cartons jaunes distribués par la Cour des comptes au gouvernement, sur l'association L214 qui a reçu par erreur des mails compromettants du ministère de l'Agriculture et sur l'embellie qui se confirme pour le marché français de la musique grâce au streaming. Attention, le fond de l'air va se rafraîchir demain. Une météo de plus en plus hivernale avec des chutes de neige en pleine et des températures en nette baisse. Conséquence de ce temps agité, Météo France a placé en vigilance jaune la quasi-totalité de la France. Du nord de la Bretagne à la Normandie, les Hauts-de-France, la région parisienne jusqu'au Grand Est et l'Est de la Bourgogne, les chutes de neige pourraient blanchir les sols par endroits. Ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir, 22h20, votre rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Lionel Franchio, le directeur général France de Hyundai.
Europe 1.
Pas question donc de fermer les frontières, dit ce soir Olivier Véran, à l'issue d'une rencontre aujourd'hui à Rome avec ses collègues ministres de la Santé de plusieurs pays européens. Alors que les cas de coronavirus, je vous le disais, se multiplient en Italie, le bilan est passé à 10 morts aujourd'hui. Désormais, l'Autriche, la Suisse, la Croatie sont également touchés. En France, deux nouveaux cas ont été détectés et rendus publics ce soir. Une femme revenue de Chine, une Chinoise hospitalisée en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est sous surveillance à Paris, mais elle va bien, le mieux possible. Elle a été testée d'ailleurs négatif au nouveau coronavirus, mais elle était porteuse de traces de guérison. Quant à l'autre cas, il s'agit d'un homme, un Français de retour de Lombardie, hospitalisé en Auvergne-Rhône-Alpes, son état de santé n'inspire pas non plus d'inquiétude. Ce soir, le secrétaire d'État aux transports invite les Français à reporter leur voyage vers les zones touchées en Italie et Air France met en place des mesures commerciales pour les passagers qui souhaiteraient justement reporter leur vol en direction du nord de l'Italie. Les mesures de confinement, elles, se multiplient, comme dans la capitale, où on a demandé à deux jeunes enfants de retour de vacances dans les régions italiennes concernées de rester chez eux pendant 14 jours, Théo Manval.
Oui, deux jeunes filles scolarisées en CM2 et qui revenaient de vacances dans le nord de l'Italie avec leurs parents. Elles ont d'abord repris l'école comme les autres hier. Mais dans la soirée, la directrice a appelé les parents pour leur demander de laisser leurs filles à la maison pour 14 jours. Les nouvelles consignes ont été placardées à l'entrée de l'école et envoyées par mail à tous les autres parents comme Leandro qui a un fils en CP.
Elle m'avait envoyé ça. Si vous et votre enfant avez séjourné à Chine, Corée, Italie, en Lombardie, en Vénétie. Pendant 14 jours après le retour, votre enfant ne peut pas être accueilli à l'école. Ça ne m'assure pas, ça me fait peur, ouais, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas s'il y a un problème, je ne sais pas.
Alors non, on le rappelle, ce sont uniquement à ce stade des mesures de précaution, prises aujourd'hui d'ailleurs pour deux autres écoliers à Paris. On l'apprend ce soir, 8 élèves aussi d'un lycée de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine qui revenaient de Vénétie, ou encore 5 jeunes d'un conservatoire de Villeneuve-sur-Lot rentrés hier de Lombardie, tous invités à rester chez eux pendant 14 jours.
Théo, pourquoi isole-t-on les enfants mais pas les parents ?
Eh bien parce que les consignes qu'on donne aux adultes qui reviennent de ces zones seraient trop difficiles à faire respecter aux enfants. Éviter le contact les uns avec les autres. Vous voyez les cours d'école, porter correctement son masque toute la journée quand on a 6 ou 7 ans, c'est pas forcément garanti. Donc il y a trop de risques que ça ne fonctionne pas et que les écoles se transforment en nid de propagation d'une future épidémie, ce que le gouvernement évidemment veut éviter.
Les précisions de Théo Manval pour Europe 1. En Italie, aujourd'hui, trois nouvelles régions ont à leur tour enregistré des cas positifs. La Toscane, la Ligurie et la Sicile. Une crise sanitaire qui, dans ce pays, se double désormais d'une crise politique. Le Premier ministre italien pointe clairement la responsabilité d'un hôpital de Lombardie dans la propagation du virus. La Lombardie, où vous vous trouvez, Roman Hocquet, vous faites partie des reporters d'Europe 1 présents sur place. Roman, le gouvernement italien reconnaît donc des dysfonctionnements.
Oui, c'est une information déterminante car c'est la première fois que Giuseppe Conte désigne un responsable, à savoir un hôpital. Les dysfonctionnements de l'établissement auraient favorisé la propagation du virus. C'est ce qu'a expliqué le Premier ministre italien ce matin lors d'une conférence de presse.
Il y a eu une gestion au niveau d'une structure hospitalière pas complètement appropriée selon les protocoles de prudence recommandés dans tel cas. Et cela a certainement contribué à la diffusion.
Alors Giuseppe Conte désigne sans le nommer l'hôpital de Codogno, le foyer de l'épidémie en Lombardie. C'est dans cet hôpital qu'a été admis le patient 1, le premier cas en Italie. Il s'agit d'un homme de 38 ans, toujours en soins intensifs. C'est lui le point de départ d'une grande partie des cas recensés dans la région. Les chercheurs veulent désormais comprendre comment cet homme a contracté la maladie, car lui n'est pas allé en Chine. Son entourage n'a pas non plus été contaminé. Il faut donc trouver le patient 0, celui qui a importé le virus en Italie. Les pistes mènent pour l'instant à un agriculteur de 60 ans originaire de Vénitie, une énigme à résoudre et qui permettrait de mieux mesurer la propagation du virus en Italie.
Romain Auquet, envoyé spécial d'Europe 1, donc en Lombardie, qui nous permet de suivre cette crise sanitaire, tout comme Mathieu Bock, hein, d'ailleurs, qui est à Milan, ou encore Frédéric Michel, à la frontière italienne. À propos de frontières, les contrôleurs français de la SNCF ont décidé désormais de ne plus aller en Italie. Ils s'arrêtent à la frontière et ce sont leurs collègues italiens qui prennent le relais. Par ailleurs, sur l'île espagnole, cette fois de Tenerife, des centaines de touristes sont confinés actuellement dans leur hôtel ou à séjourner un Italien qui pourrait être porteur du coronavirus. Mesure similaire dans un hôtel d'Innsbruck en Autriche. Autre pays parmi les plus touchés par cette épidémie, l'Iran. On a appris aujourd'hui que le vice-ministre iranien de la Santé avait lui-même été contaminé. Il était apparu hier fébrile lors d'une conférence de presse. La propagation de l'épidémie en Italie qui suscite aussi des interrogations avant l'huitième de finale aller de la Ligue des Champions, prévue demain soir à Lyon entre l'OL et la Juventus Turin. Les maires de Mézieux et de Décines-Charpieu, où se situe le stade, le Groupama Stadium qui doit accueillir la rencontre, ont demandé aux autorités d'interdire la venue des 3000 supporters de la Juve. Pour Christophe Quignoux, le maire de Mézieux, le risque est trop grand et la population est inquiète.
Cette décision est irresponsable. Qu'à un moment où on ne connaît pas le taux de propagation du virus et qu'il y a des craintes sur sa diffusion au niveau du territoire français, laisser venir 3000 supporters n'est pas raisonnable. Et les populations autour du stade, elles, sont très inquiètes et demandent justement à ce qu'il y ait des mesures qui soient prises. Elles ont peur que des Italiens viennent propager sans contrôle ce coronavirus. Alors moi, je n'ai pas les moyens de prendre des mesures directement sur ma commune. Aucun contact de l'État avec ma commune. Le coût était trop important. Je suis laissé seul. Les seules choses que je vais faire, c'est essayer de dissuader le contact au maximum avec tous ses supporters.
Le maire de Mézieux qui était l'invité du Grand Journal du soir avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs sur Europe 1. Ce match Lyon-Turin qui aura bien lieu donc avec ses supporters en théorie. Vous pourrez le suivre en direct et en intégralité demain. Grande soirée foot sur Europe 1 dès 20h avec Lionel Rousseau. Et puis ce soir, le ministre de la Santé a redit qu'il n'était pas question, en tout cas pour l'instant, d'interdire des événements.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h08. Merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et un recours au 49.3 pour faire passer sans vote la réforme des retraites, ça se précise. Édouard Philippe l'a confirmé entre les lignes et même un peu plus cet après-midi aux députés.
Mon sujet, mon ambition, c'est évidemment de faire en sorte que le débat ait lieu, qu'il soit le plus sérieux, le plus approfondi. Mais si ça n'est pas possible, si au bout de très nombreuses heures de débat, nous constatons que ça n'est pas possible. Alors la Constitution, Monsieur Abadé, Monsieur le Président, vous le savez parfaitement, autorise, le cas échéant, le Premier ministre à utiliser un article, le 49.3. Lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, je le fais sans hésiter. Et j'utilise toute la Constitution, rien que la Constitution, mais bien toute la Constitution.
Voilà, Édouard Philippe, cette mise au point cet après-midi à l'Assemblée nationale, des propos captés par le micro européen d'Adrien Beck. Rien ne justifie ce passage en force, a dit Marine Le Pen qui était en visite aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. La Cour des comptes a publié aujourd'hui son rapport annuel dans lequel elle reproche au gouvernement une ambition limitée pour redresser les finances publiques, dette publique à un niveau qui reste très élevé, redressement quasi à l'arrêt, ça c'est pour le constat global. Mais il y a aussi, comme chaque fois, Olivier Samain, un certain nombre de cartons jaunes.
Oui, carton jaune adressé à l'école polytechnique dont la situation financière est préoccupante, dit la Cour, avec au passage une impossibilité pour l'école de suivre le parcours de ses anciens élèves, ce qui pose un problème quand on sait qu'ils doivent rembourser leurs frais de scolarité s'ils ne travaillent pas un minimum d'années dans le secteur public après leur sortie de l'école. Encore faut-il savoir où ils sont. Carton jaune pour le système des aides au logement, système encore trop complexe, dit le rapport, avec le risque de fraude et d'erreur. Carton jaune encore pour Pôle emploi, qui a mis le paquet sur ses services numériques, avec notamment l'inscription dématérialisée. C'est une bonne chose, dit la Cour, mais la situation des personnes en difficulté avec le numérique n'a pas été suffisamment prise en compte, reproche que Pôle emploi rejette. Carton jaune adressé à l'armée française, qui a tardé à s'équiper de drones aériens, alors que d'autres armées n'ont pas raté le coche. Et au milieu de tout ça, quelques bons points quand même. J'en retiens un, celui adressé aux partenaires sociaux qui gèrent ensemble les retraites complémentaires Agirc-Arrco. Ils ont su prendre des mesures courageuses, dit la Cour, pour garantir l'avenir des retraites complémentaires du privé. Alors ça prend un relief tout particulier dans le contexte de la réforme des retraites actuellement examinée au Parlement.
Effectivement, les explications d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Et maintenant, c'est ce qu'on peut appeler une boulette. Des emails internes du ministère de l'Agriculture envoyés par erreur à l'association L214. Vous savez, c'est cette association qui révèle régulièrement des cas de maltraitance animale. Elle a donc reçu des échanges dans lesquels des agents du ministère reconnaissent des non-conformités au sein de l'abattoir de Dordogne qu'elle avait justement pointé du doigt dans une vidéo. Sauf que ces propos sont totalement contradictoires avec ce que disait sur Europe 1 le ministre de l'Agriculture il y a deux jours, puisque le ministre affirmait que les faits et les images en question n'étaient pas avérés. Sauf que les emails semblent laisser penser le contraire, Pauline Jacquot.
Oui, on est très loin de cette sérénité affichée par le ministre. Les messages publiés par l'association laissent entendre que plusieurs éléments étaient connus. « J'ai fait la liste », écrit un haut responsable, « de toutes les non-conformités indéniables, voire majeures ». Les mots sont écrits noir sur blanc. Un autre email venant du cabinet du ministre demande « des éléments de langage béton ». Ce sont des phrases toutes faites pour répondre aux médias. Sébastien Arsac de l'association L214 demande aujourd'hui la démission du ministre.
C'est un mensonge, il sait très bien, c'est son cabinet, il est au courant qu'il y a effectivement des non-conformités, mais il vient de dire exactement l'inverse au public. Quand ça dérange, quand les éléments ne vont pas dans le sens de soutenir la filière d'élevage et d'agriculture, le ministère est prêt à mentir et à fabriquer des éléments. On peut effectivement ne plus avoir confiance dans un ministère comme ça qui triche.
Embarras, évidemment, pour le ministre de l'Agriculture qui a dit sur Europe 1 que ces images étaient prises sur plusieurs mois, voire plusieurs années. L214, de son côté, maintient ses affirmations. Il y a eu des sévices graves et cet abattoir doit fermer ses portes.
Les explications de Pauline Jacquot. Le Mondial 2022 de foot, Vinci au cœur d'une enquête française sur les conditions de travail de ses chantiers au Qatar. L'entreprise est accusée de travail forcé et de traite d'êtres humains. Enquête menée par un juge français après des plaintes d'ONG et d'ex-employés indiens et népalais, des accusations qui sont réfutées par Vinci. En Iran, inquiétude sur la santé de la Française Farida Adelka, cette chercheuse anthropologue emprisonnée depuis le mois de juin pour des accusations politiques. Elle a été hospitalisée après une grave détérioration de son état de santé. Il avait été balayé par le printemps arabe en 2011. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak, qui a dirigé le pays pendant 30 ans, est mort aujourd'hui à 91 ans. Il avait été condamné, emprisonné puis acquitté. Une décision rare dans le sport de haut niveau, le navigateur François Gabart décide de s'accorder une pause d'un an. Il se dit trop fatigué, il souhaite prendre du recul afin d'éviter de prendre des risques. Gros succès pour l'exposition consacrée à Léonard de Vinci au musée du Louvre à Paris. Elle a rassemblé près d'1 100 000 visiteurs et non pas auditeurs, comme j'ai marqué sur ma feuille. C'est un record absolu. Le précédent était détenu par l'expo consacrée à Eugène Delacroix. Allez, on va finir en musique. Ça fait du bien par les temps qui courent avec une bonne nouvelle. Les Français écoutent toujours de la musique, mais ils l'écoutent différemment. Aujourd'hui, tout presque passe par le streaming. C'est une nouvelle bouffée d'air qui fait beaucoup de bien à l'industrie de la musique, Angèle Châtelier.
C'est ce qui devrait sauver l'industrie. Plus de 9 millions de Français payent un abonnement sur Spotify, Deezer ou autre. Une progression de plus de 18%, ce qui fait des abonnements payants la première source de revenus devant le CD. Le streaming, à lui seul, représente 59% du marché. Mais le disque continue à se vendre et à générer des revenus, presque 37%, surtout pendant les fêtes. Et c'était sans compter sur le retour du vinyle. Plus 12% en 2019, c'est beaucoup. Et puis, ce ne sont pas que les gros groupes qui ont déjà quelques années de carrière derrière eux. Angèle, Aya Nakamura, L'Homme Pâle et d'autres vendent aussi des galettes. Et surtout, ces nouveaux talents rayonnent. Un quart des disques les plus vendus sont des premiers albums.
Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse.
Mais si depuis 4 ans l'industrie est en pleine croissance, tout n'est pas encore gagné. Selon le SNEP, le marché rattrape tout juste celui d'il y a 10 ans et ne représente que 44% de celui de 2002, année du début de la crise du disque.
Angèle, avec notre Angèle à nous, Angèle Châtelier, spécialiste musique d'Europe 1. Allez, on change de musique, on jette un œil avec vous, Anissa Haddadi, sur la météo qui sera de plus en plus hivernale demain.
Et oui, effectivement Isabelle, demain une vraie journée d'hiver et ça commence avec cette nuit sur quasiment toute la France, des averses avec des rafales de vent, du grésil et même des coups de tonnerre. Voilà, rien que ça pour cette nuit. Alors dès le début de la journée, demain matin, sur la région parisienne, la Bourgogne, le Nivernais, le Massif central, la vallée du Rhône et l'Alsace, eh bien il va neiger demain matin à très basse altitude à partir de 500 mètres, voire même en pleine, des chutes de neige qui seront accompagnées de grésil et de coups de tonnerre, je vous le disais. Donc c'est vraiment très très agité demain matin. Dans le sud-ouest, les averses seront là aussi très nombreuses et elles vont durer toute la journée. En Corse aussi, beaucoup d'averses tout au long de la journée et de la neige à partir de 1300 mètres. En plus de cette atmosphère très humide, le vent d'ouest, nord-ouest souffle encore demain jusqu'à 90 km/h dans les terres. On aura 90 km/h par exemple sur le Massif central demain. Sur les côtes et la Corse, là aussi, le vent d'ouest va souffler très fort. Sur le nord-ouest, le sud, le centre-val de Loire et le bassin parisien, ça c'est la bonne nouvelle si j'ai cité votre région, le temps redeviendra sec demain dans l'après-midi avec même quelques éclaircies. Les températures, 2 à 7 degrés sur la façade ouest de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées le matin, 7 à 11 sur la Méditerranée, puis dans l'après-midi nous aurons seulement 4 degrés au Puy-en-Velay, 5 à Saint-Étienne et Belfort, c'est frais, hein, 8 à Lille, 9 pour Paris, 12 à Bordeaux et 14 degrés à Marseille.
La météo signée, Anissa Haddadi.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamo de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Dutheil qui reçoit ce soir le directeur général France de Hyundai. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h18, merci d'écouter Europe 1 comme tous les soirs à cette heure-ci. On s'intéresse maintenant à la bourse avec vous Didier Hamo, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et ça continue, hein. Wall Street poursuit sa baisse, encore en repli ce soir de 3% sur les principaux indices boursiers.
C'est très lourd, oui, la propagation du coronavirus en Europe continue de peser sur les marchés financiers. Aux États-Unis, les autorités sanitaires s'attendent aussi à ce que le virus commence à se propager avec des propos assez alarmistes ce soir. On attend de graves perturbations. Donc ça donne Wall Street qui croit vraiment, qui commence à se faire peur. Moins 3,15% sur le Dow Jones, 27 081 points. Ça baisse nettement sur le Nasdaq, moins 2,77%. Ce sont de très lourdes baisses pour le marché américain qui perd généralement 1% au grand maximum. Là, on est sur des niveaux quand même très anormaux. Le Nasdaq, moins 2,77%, 8 966 points. Donald Trump est monté au créneau pour tenter de rassurer un petit peu tout le monde en estimant que tout était sous contrôle.
Oui.
Visiblement, les marchés ne l'ont pas cru. La Réserve fédérale pourrait même se décider à baisser ses taux dès le mois de mars si la situation venait à se dégrader. Ça n'a pas suffi donc à soutenir la tendance ce soir. Ce sont les valeurs du transport qui baissent évidemment encore. United Airlines, moins 6,5%. Boeing, moins 4,5%. Les valeurs à l'exportation aussi toujours. Hein, IBM, moins 3,2%. Microsoft, moins 1,6%. Apple, moins 3,3% à $288. Et puis Tesla perd 4% et repasse sous les $800. Le pétrole recule encore un peu. On s'accroche quand même aux $56 le baril de Brent. L'euro remonte légèrement, 1,0850 face au dollar.
Et on précise quand même qu'il n'y a pour l'instant aucun cas aux États-Unis. Didier, la bourse de Paris, elle, a encore cédé près de 2% à la clôture.
Oui, mais les marchés sont toujours dans l'anticipation, oui. Isabelle. Oui, voilà. Alors c'est le problème et c'est pour ça que ça baisse aussi à Paris, hein, puisque même s'il n'y a pas pour l'instant de situation grave sur le terrain, bien ça baisse nettement, ça anticipe beaucoup sur les marchés. La Bourse de Paris, moins 1,94%, 5 679 points. Ça fait quand même 7% de baisse en deux séances. Et les valeurs touchées sont toujours les mêmes, à commencer par le luxe, avec le groupe SMCP, moins 11%, qui a prévenu que son activité serait affectée par la situation sanitaire. Les pétrolières, de nouveau, CGG, moins 8,8%, Vallourec, moins 6%, Technip, moins 4%. Et puis les banques ne sont pas épargnées ce soir. BNP, moins 5%. Repli net aussi pour la Société Générale. Crédit Agricole et Natixis entre moins 3 et moins 4%.
Et puis, exception du jour, il y en a toujours, Didier, le titre Arkema qui grimpe, lui, de plus de 6%.
Avec une grosse spéculation autour du groupe de chimie qui remonte de 6,4% exactement, oui, 89,90 €. Le marché anticipe des décisions stratégiques importantes de la part du groupe Arkema qui est sous la pression de gros actionnaires activistes. La vente d'une division polymère serait même envisagée pour quelques 1 milliard d'euros et ça donne une hausse ce soir de 6,4% sur Arkema. Sur les autres places financières, ça baisse partout. Encore une fois, Francfort, moins 1,9%. Bruxelles, moins 2,3%. Madrid, moins 2,5%. Milan, qui avait perdu plus de 5% hier. Milan perd 1,4% ce soir. Londres, moins 1,9%. Et donc, le CAC 40 en baisse d'1,94%. 5 679 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Didier Hamo de Boursier.com. Et c'est l'heure de l'invité éco, Emmanuel Duteil. Vous recevez ce soir le directeur général France de Hyundai.
Bonsoir Lionel Frenchkio.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général en France de Hyundai. Hyundai, une marque que l'on commence à bien connaître, qui a fortement progressé ces dernières années en France. Avant de revenir sur vos performances et sur l'avenir sur ce marché français, on va quand même commencer par le coronavirus. Est-ce que vous avez des problèmes d'approvisionnement en ce moment de voitures à cause de cette crise pour vos clients français ?
Alors, pas pour les clients français ni pour les clients européens, mais effectivement, on a une usine qui s'est arrêtée de produire en Corée, mais qui était d'abord à destination du marché coréen, puisque simplement, quelques sous-traitants chinois n'ont pas été en mesure de fournir des pièces.
Ça ne peut pas arriver qu'on ait des problèmes de livraison pour les voitures à destination du public français ?
Non, pas pour la France, puisque la plupart des voitures qu'on vend en France sont produites en Europe. Pour le moment, pas de soucis particuliers.
Produites en Europe, je précise, notamment en République tchèque, vous n'avez pas de soucis parce que vous ne produisez rien du côté de Hyundai en Italie. Mais on est bien d'accord, certes, vous produisez peut-être en Europe, mais parfois quand même avec des pièces chinoises.
Plutôt fabriqués en Europe ou pour certains fabriqués en Corée. Donc pour l'instant, en tout cas, pas de retard pour les clients européens et pour les clients français, un peu pour les clients coréens.
Alors, on va regarder justement ce marché français. Comment vous voyez ce marché dans les mois à venir du côté de chez Hyundai ?
Il y a eu pas mal d'anticipations, on va dire, de livraison au mois de décembre compte tenu du changement de grille de bonus-malus qu'on a vu tout de suite sur le mois de janvier. Après, ce qu'on a vu également sur le mois de janvier, c'est finalement un gros démarrage des véhicules zéro émission, donc des véhicules électriques. Bon, globalement, cette année, le marché devrait être plus ou moins stable par rapport à l'année dernière, en légère baisse. En revanche, avec un virage clair et puissant, on va dire, des voitures que je vais appeler électrifiées, qu'elles soient hybrides, hybrides rechargeables ou électriques, puisque évidemment, le bonus-malus nous pousse à ça, mais également la réglementation européenne.
Alors, le bonus-malus vous pousse à ça, mais est-ce que les clients sont prêts à acheter de l'électrique? Parce que c'est vrai que nous, les premiers journalistes, on ne parle que de ça, mais c'est encore, allez, quasiment rien au niveau des ventes, si on regarde au global.
Alors, c'est vrai que l'année dernière, c'était 2% du marché. Donc, c'est vrai que c'est, somme toute, c'est confidentiel. Les attentes du gouvernement, c'est 5% du marché cette année, en gros, 100 000 voitures. Donc, malgré tout, c'est une grosse progression, mais ça ne reste que 5% du marché.
Quels sont encore aujourd'hui les freins? C'est toujours pareil, c'est j'ai peur de tomber en panne sèche au milieu de l'autoroute.
Plusieurs freins. Le premier, c'est le prix. Parce que les gens imaginent que les voitures électriques sont plus chères, ce qui n'est pas forcément vrai. Et ensuite, il y a évidemment l'autonomie. C'est sûr que la voiture étant un outil de liberté, c'est toujours contraignant finalement de se dire que j'ai 300-400 km d'autonomie et après, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la charge. Effectivement, savoir où est-ce que je vais pouvoir charger mon véhicule. Et le dernier élément, c'est finalement aussi pas mal de questionnements par rapport à l'écologie, finalement. Puisque les gens ont besoin finalement d'avoir beaucoup plus d'informations sur la manière dont les véhicules sont produits, mais également la manière dont on les recycle.
Et ça, vous leur répondez sur le recyclage quoi ? Puisque bien malin, celui qui est capable de dire ce qu'on va faire de nos batteries.
La réalité, c'est que compte tenu effectivement du prix des matières premières qui servent à fabriquer les batteries, assez rapidement, en fait, le recyclage des batteries va devenir une activité profitable. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, je dirais, dans les années qui viennent. Et les projections dans les 24 à 36 mois qui viennent, c'est que finalement, le recyclage de la batterie ne coûtera rien et rapportera même de l'argent.
Vous êtes très en pointe hein, sur les voitures hybrides, sur les voitures électriques. Vous pensez que du coup, vous allez profiter de cette accélération et de ce virage du marché ?
Quand on regarde finalement le volume de voitures électriques qu'on a vendues l'année dernière, ça représentait à peu près 5% de nos ventes. Depuis le début de l'année, c'est 15% de nos ventes. C'est clair que finalement, cette accélération liée à l'accélération de l'offre sur le marché, on en profite d'ores et déjà aujourd'hui. Et les voitures électrifiées, donc c'est-à-dire hybrides, hybrides rechargeables ou électriques, elles représentent à peu près un tiers de nos ventes. Clairement, on en profite.
Vous êtes le premier vendeur au monde de voitures à hydrogène. Alors quand je dis premier vendeur, ça se calcule encore en milliers de voitures. Ça ne va pas très loin. Je crois que c'est 3 à 4 000 voitures au maximum qui sont vendues à hydrogène chez vous au monde. Vous êtes vendeur de voitures à hydrogène principalement sur votre marché, la Corée. C'est pour quand chez nous en France ?
D'abord, le véhicule est disponible et libre à la vente. Hein, donc,
j'ai regardé les chiffres, je n'ai pas l'impression qu'ils s'en achètent beaucoup en France. Je ne suis même pas sûr que ça se compte en dizaines.
On en a vendu une petite dizaine, effectivement, l'année dernière. On a développé cette technologie depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Donc, c'est quelque chose dont on sait que ça fonctionne. C'est une alternative crédible à la voiture électrique à batterie, puisqu'une voiture hydrogène, c'est une voiture électrique qui produit sa propre électricité. Et un peu finalement comme avec les voitures électriques, aujourd'hui le sujet c'est l'offre mais aussi les infrastructures de charge, puisqu'à ce jour il y a on va dire une petite trentaine de stations hydrogène en France dont la plupart ne sont pas ouvertes au public. Il y a de nouveau une trentaine de projets en cours actuellement beaucoup développés par des mairies qui souhaitent avoir des transports publics à l'hydrogène et l'enjeu pour nous c'est finalement d'arriver à inciter ces villes, ces régions, ces départements à ouvrir ces stations au public de manière à ce que derrière, nous, on puisse développer effectivement des solutions de mobilité zéro émission sans les contraintes de l'électrique à batterie, puisque un véhicule à hydrogène comme le Nexo a une autonomie de 600 ou 700 km et un temps de charge qui est de 3 minutes.
Mais pour vous, vous pensez qu'un jour, une fois qu'on sera potentiellement équipé en station, c'est un véritable développement potentiel pour le marché de l'automobile ? Parce que beaucoup pensent que c'est certain pour les trains. Pour le transport collectif, ça semble être une certitude que l'hydrogène puisse être intéressant. Certains doutes pour l'automobile.
Il ne faut pas d'abord opposer les technologies. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour les véhicules à batterie et de la place pour les véhicules à pile à combustible, donc hydrogène. Mais pour moi, c'est une question d'utilisation du véhicule et de gabarit. C'est-à-dire que quand vous faites une très grosse voiture et qu'il faut lui coller des centaines de kilos de batterie pour qu'elle soit zéro émission à batterie, c'est un problème parce qu'au final, vous avez des voitures qui font 2,5 tonnes et qui ont 300 km d'autonomie et c'est pas cohérent. En revanche, pour ce type de véhicule, d'avoir un véhicule avec une pile à combustible, ça a du sens. En revanche, pour une toute petite voiture, ça en a beaucoup moins et la batterie est complètement adaptée. Donc je dirais que ces deux technologies-là sont complémentaires.
Un grand merci Lionel Frenchkio, le patron France de Hyundai, d'avoir été notre invité ce soir. Je ne vous dis pas à demain, mais à après-demain. Mais soyez bien au rendez-vous demain soir, énorme soirée de football encore sur Europe 1. C'est Lyon qui va affronter le mastodonte Juventus de Turin. À suivre donc en direct et en intégralité sur Europe 1.
On y sera évidemment et on vous dit bien sûr à jeudi Emmanuel Duteil. Et on va jeter un œil tout de suite rapidement sur les unes de vos quotidiens. Voici ce que vous découvrirez demain. Et l'épidémie de coronavirus, bien sûr, est encore très présente à la une de vos journaux. Coronavirus, l'économie contaminée, titre Libération. La fièvre gagne les marchés et menace la croissance mondiale. High-tech, tourisme, mode, commerce, les secteurs les plus divers sont déjà affectés. La France se prépare à affronter le coronavirus, titre Le Figaro. La France se prépare à affronter une épidémie pour les échos. Tests, masques, confinement, la mobilisation mondiale. D'un cran depuis qu'un foyer de coronavirus est apparu en Italie. Les risques sont réels pour la croissance française et les bourses mondiales, on vient de le voir avec Didier Hamot, creusent leurs pertes. La crainte du pire, écrit Christophe Bonnefoy dans le journal La Montagne. D'une gestion presque au cas par cas, on arrive quelques semaines après l'apparition du coronavirus à un glissement inquiétant du vocabulaire et à un confinement à grande échelle. Pour résumer, d'une épidémie avérée à une pandémie probable. Symbolique, la situation en Italie. Une simple alerte devient désormais affaire d'État et l'affaire des pays voisins par la même occasion. Toute la difficulté chez nous comme ailleurs est de prendre le problème à bras-le-corps mais sans affoler non plus les populations. Compliqué alors que le virus n'a pas encore livré tous ses secrets et qu'il devient périlleux d'affirmer pouvoir rapidement le réduire à néant. Un tout autre sujet à la une du journal L'Opinion. Demain, France, qu'as-tu fait de ta culture générale ? L'Opinion qui revient sur le rapport sur la réforme de la haute fonction publique, dans lequel l'avocat Frédéric Thiriez propose de supprimer l'épreuve de culture générale à l'entrée de l'ENA. Après Sciences Po, un pas de plus vers la disparition pour les concours d'entrée aux grandes écoles de ces dissertations, souvent jugées socialement discriminantes et peu révélatrices des véritables qualités des candidats. Et puis une femme portant un enfant sur son dos à la une du journal La Croix qui titre « Dans le piège d'Idlib », trois Syriens racontent leur quotidien dans la dernière poche rebelle du territoire. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et à 22h30 sur Europe 1, je vous souhaite une excellente soirée en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Et à tout à l'heure, 23h.
À tout à l'heure.